La fumée les excite, ils ne résistent pas ni n'hésitent pour la repratique. L'un et l'autre s'invitent, toujours au même rythme, toujours au même rythme. La déraison les appétit tapé et un
bout de sidane, ne les dépasse qu'ils vont bouger. Pour le dernier, pour la route, on va passer par la forêt. Dans la cariga, énorme coup de fatigue.
De délire dans les arges là et le thym, ils chantent à travers leur lyre. Le soleil couche, leur sourit en partant. Alors petit à petit, ils prennent le chemin qui descend.
Au bagne la gracieuse, au bagne la chaleureuse, au bagne la rieuse, au bagne la merveilleuse, au bagne la lyrique, au bagne la magique, au bagne la velouque. Ça manque un peu de la logique, mais c'est très bien si ça, la tradition n'est pas en retard. Sur la première chaise du premier bar au Café des Arts, il n'est jamais tard. Marius et Marcel se fument le premier pétard du soir.
Besoin de goûter la cocaïne non plus. Fume un peu de résine et rejoins les raspigards et leur herbe maline, leur ganja sarrasine.
Grâce à un accord un peu fort, ils te sortent le décor de leur colline. Les bongos et la guitare s'entonnent, l'élément primordial. Pour bien jouer le reggae, il ne faut qu'un équipement minimal. Deux petits instruments, tout le reste vêtu dedans. Juste l'esprit des cigales qui remonte du tard là-bas. Fuma, fuma, oh fuma, fuma. We do the lead, the lead, do the lead, bamboo. Fuma, fuma, oh fuma, fuma.
Seul à cœur ouvert, c'est un double homme. Quand la journée s'enfuit, que le soleil perd sa couleur jaune. Momo sorcier s'emploie à un drôle de rite. Dans les couleurs du reggae et des fumées illicites.
Il s'abandonne à la Saint-Similia, il s'adonne. Le cannabis ne le rend tout heureux, alors il fredonne. Qu'il a de la chance d'avoir les beaux plans et les doigts verts. Mais que son jardin est un petit peu trop à découvert. Alors il guette à la vue du voleur bête qui osera poser les pieds chez moi le sorcier. Alors il guette à la vue du voleur bête qui osera poser les pieds chez moi le sorcier. Fuma, fuma, oh fuma, 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 yeah. Oui, oulili, bam, bam, bing, bong. Fuma, fuma, oh fuma, 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 yeah. Fuma, 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 fuma.
c'était Raspigaus avec le morceau Fumo. Raspigaus, donc. Voilà, donc, pour continuer, bah, on va s'intéresser maintenant à cette affaire du cannabis fauché par la police municipale de Lyon dans le cadre de la Biennale d'architecture le 3 juillet dernier. Donc là, il y a un article du Monde de la semaine dernière, là, du 13 juillet, qui donne la parole à l'artiste en fait, qui a eu pour projet de planter du chanvre et du colza et du lin également. Donc cet artiste s'appelle Thierry Boutonnier. Et donc, pour clore la toute première édition de cette Biennale d'architecture, il avait imaginé avec une agence, l'agence Fabrique Architecture Paysage, une grande fauche participative, voilà, sur une plantation de 4000 m² de chanvre, spécialement plantée pour l'occasion. Mais c'était sans compter, nous dit la journaliste Roxana Azimi, c'était donc sans compter avec le zèle de la police municipale qui, croyant avoir découvert un champ de cannabis, a donc détruit la parcelle. Et bah pourquoi ? Bah parce que à vue de policier, rien ne distingue la feuille de cannabis de celle du chanvre. Seul diffère le taux de THC, autrement dit leur degré de toxicité. Ah, la toxicité. Pourtant tellement appréciée de beaucoup de gens, y compris par des malades. Leur degré de toxicité de 5 à 10% pour le premier, hein, il parle du taux de THC, dont la culture est prohibée contre 0,2% et pas 0,3% en fait, hein, comme c'est indiqué. Pour le second, qui constitue un matériau de construction et d'isolation de plus en plus tendance. Voilà. Non, on s'en fout de la tendance. C'est juste utilisé de plus en plus parce que c'est un excellent isolant phonique et également très pratique pour l'adjoindre à du béton pour en faire du béton de chanvre qui a de remarquables qualités antisismiques. Voilà, c'est pour ça. C'est pas parce que c'est tendance. Bon, voilà. Donc, alors Pierre Janin, qui est co-gérant de Fabrique Architecture Paysage, dit lui que voilà, c'est quand même surprenant d'avoir procédé à un arrachage sans enquête préalable, surtout sur un terrain privé appartenant à SPL Lyon Confluence, un aménageur qui travaille directement avec la métropole. Le projet qui a quand même coûté 10 000 euros, hein, 10 000 euros qui ont été payés avec nos impôts, hein, comme d'habitude, bien sûr. Donc 10 000 euros foutus en l'air par la police municipale. Donc ce projet avait été lancé au printemps dernier sur une friche industrielle, donc le long du cours Charlemagne. Et donc Thierry Boutonnier, l'artiste, et l'agence Fabrique avaient décidé d'y planter du chanvre, donc, et du lin, de l'orge, pas du colza. Et à cette opération en extérieur s'ajoutait la création d'un espace de convivialité au sein du bâtiment de la sucrière avec des bottes de paille, des blocs de béton, de chanvre et des panneaux isolants en chanvre et lin. On voulait montrer qu'en France, il existe des filières de matériaux biosourcés, résume Pierre Janin. Avec cette plantation sur une friche urbaine, on montrait aussi qu'il peut y avoir des modes d'occupation des sols qui ne soient pas que potagers. Mais insensible à la nouvelle qualité esthétique, entre guillemets, hein, de la zone, la police municipale refuse de s'exprimer aujourd'hui sur ce qu'elle appelle une non-affaire. Voilà ce que dit la police municipale. Un peu plus loin, on peut lire que si le lin et l'orge n'avaient pas résisté à la canicule, les plants de chanvre, eux, avaient pourtant fière allure jusqu'à leur arrachage intempestif. La police nous a reproché de ne pas avoir mis de panneaux indiquant qu'il s'agissait d'une œuvre d'art, mais c'était volontaire. Comme on craignait d'éventuelles dégradations, on voulait rester discret, nous rappelle Pierre Janin. Finalement, le malentendu que nous redoutions du côté du public est venu du côté des autorités. Voilà. Nous dit Thierry Boutonnier, qui lui n'a pas porté plainte, et il admet même, c'est assez regrettable hein, quand même, il dit en tout cas que le quartier de Confluence est un lieu de promotion immobilière, mais aussi une zone de trafic et de prostitution, c'est un terrain sensible où les flics sont à cran. Et en plus, il prend la défense de la police. Voilà. Donc un brin penaud pour finir hein, de cet article, un brin penaud. Les policiers se sont tout de même rendus le 8 juillet à la fête champêtre donnée par la Biennale, qui à défaut d'une fauche a proposé une séance d'irrigation avec DJ à la clé. Voilà. Eh oui. Donc puisqu'on peut pas fêter ça normalement, bon ben bah, séance d'irrigation. Je sais pas ce qu'ils ont irrigué du coup parce qu'il y avait quasiment plus rien à irriguer. Alors je sais pas, ils ont peut-être irrigué autre chose que des plantes. Mais bon, c'est assez surprenant de pouvoir lire ce genre de choses. Bref. Allez, on enchaîne. On va s'intéresser maintenant à un article de l'Express Live à propos de ce rapport de l'ONUDC, des Nations Unies. Et l'article est titré ainsi « Le cannabis est la drogue la moins mortelle au monde ». Ah. Ce qui sous-entend qu'il y en a qui sont plus mortels, mais ça sous-entend également que même si elle est moins mortelle, elle peut quand même être mortelle. Voilà. Ce qui, à notre connaissance, n'est pas le cas. Hein. On n'a toujours pas de traces dans la littérature scientifique de personnes qui seraient mortes, intoxiquées avec du cannabis, ou alors, si peut-être après avoir reçu une tonne de résine de cannabis sur la tête, là oui, effectivement, ça peut faire mal et on peut en décéder, mais sinon... Bon. Alors, donc cet article nous rappelle que c'est effectivement le moment pendant lequel l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime rend son rapport tous les ans au mois de juillet, fin juin, début juillet. Et donc voilà, moins mortel parce que en 2015, l'ONUDC n'a reçu aucune nouvelle d'un consommateur décédé puisqu'il consommait du cannabis. Voilà. Selon ce même rapport, 3,8% de la population adulte mondiale consommait de la marijuana, ce qui fait environ 183 millions de personnes en 2015. Je me demande si c'est pas un chiffre qui est quand même assez en deçà de la réalité. Hein. Il y a 2 ans, les opioïdes et les opiacés étaient les drogues les plus populaires utilisées mondialement, suivies par la cocaïne, les amphétamines et l'ecstasy. Aux États-Unis, de plus en plus d'États tolèrent l'usage récréatif et l'usage médical du cannabis. Le nombre d'Américains consommateurs de marijuana aurait augmenté. Alors là-dessus, les experts sont pas tous d'accord. Bon, en 2015, 8,3% d'Américains âgés de plus de 12 ans ont consommé du cannabis contre 6,2% en 2002. Voilà. Encore une fois, on sait que quand il y a des changements de législation... Le fait que statistiquement on constate plus d'usagers ne signifie pas qu'il y en ait en effet plus, mais une loi autorisant l'usage fait que ceux qui avant se planquaient ben, ne se planquent plus et du coup déclarent plus spontanément consommer du cannabis. Je pense que c'est plutôt ça la réalité. Alors en Europe, il y aurait 1% des Européens qui consomment du cannabis tous les jours. Mais en tout, hein, c'est 6,6 millions de personnes, 6,6% des personnes âgées de 15 à 64 ans qui ont consommé en 2015. Soit environ donc 1% des Européens, soit 3 millions de personnes qui étaient des utilisateurs quotidiens de marijuana. Là, je pense qu'au niveau de l'Europe, on est largement en deçà des chiffres réels hein, également. Le cannabis est également la drogue que l'on produit le plus de manière illicite à travers le monde. De 2010 à 2015, nous dit encore une fois le rapport de l'ONUDC, hein, ce ne sont que leurs résultats hein, qu'on peut lire dans cet article. Donc de 2010 à 2015, la marijuana a été cultivée dans 135 pays, contre 49 pays pour l'opium et 8 pour celle de la feuille de coca. Le cannabis est aussi la drogue la plus saisie par les autorités dans le monde. En 2015, le Paraguay a détruit 12 millions de plants de cannabis et l'Ukraine 7,5 millions, la Jamaïque 1 million. Les États-Unis ne fournissent pas d'informations sur la destruction des plants individuels, mais des fonctionnaires ont indiqué avoir détruit plus de 4 millions de plantes de marijuana. Voilà, donc les résultats bruts, hein, certains résultats bruts de ce fameux rapport de l'ONUDC, qui prend en compte des statistiques de plein de pays et qui a une vision quand même assez lointaine de la réalité de la consommation des drogues, donc très très imprécise, rappelons-le quand même. Hein. Voilà. Mais d'autres choses ne sont pas dites dans ce rapport et on va retrouver ces infos dans le communiqué de presse du CIRC du 14 juillet dernier, donc de vendredi dernier. Stupéfiant, point d'exclamation, le grand virage de l'ONU et de l'OMS. Voilà, pourquoi ? Ben parce que on cite dans ce communiqué de presse un petit article de ce rapport, de ces rapports, qui est celui-ci, voilà, mettre en place des garanties contre la discrimination dans la législation, les politiques et la réglementation, notamment en révisant et en abrogeant les lois punitives qui se sont avérés avoir des incidences négatives sur la santé et qui vont à l'encontre des données probantes établies en santé publique. Voilà donc matière à réfléchir pour le gouvernement français quant à la pertinence d'une mesure qui ne fera que renforcer le sentiment d'injustice déjà vivement ressenti par une certaine catégorie des cannabinophiles. En tout cas en ce qui concerne la prochaine mesure de contraventionnalisation de l'usage. Ces propos ne sont pas ceux des habituels partisans de la réforme de la politique internationale des drogues. Ils sont extraits de la déclaration commune de l'ONU et de l'OMS publiée le 27 juin dernier, curieusement passée sous silence dans les médias. Il s'agit pourtant là d'un véritable tournant en la matière. Ces deux vénérables institutions stigmatisant des lois qui pénalisent ou interdisent autrement l'expression du genre, les relations homosexuelles, l'adultère et les autres comportements sexuels entre adultes consentants, la prostitution entre adultes consentants, la consommation de drogue ou leur possession en vue d'un usage personnel. De discrimination, il en sera toujours question tant que la question des drogues sera abandonnée aux seuls policiers, et j'ajouterai aux trafiquants également et au marché noir. La réaction globalement positive des principaux syndicats de police à cette mesure n'est donc pas une surprise. Contraventionnaliser les usagers des drogues revient à légitimer des pratiques arbitraires de harcèlement et de persécution des jeunes, principalement issus des quartiers populaires et des minorités visibles. Un racket institutionnalisé que dénoncent depuis toujours l'ensemble des associations d'usagers et les organisations qui les soutiennent. Seule une régulation complète de la filière chanvre cannabis, récréatif et thérapeutique permettra de mettre un terme aux dégâts provoqués par près d'un demi-siècle de prohibition à la française. En choisissant d'adopter une politique respectueuse des individus, de leur capacité de jugement, et non en les infantilisant, en considérant cette question sous son aspect sanitaire, certes, mais aussi et surtout culturel, la France pourrait ainsi rejoindre les pays de plus en plus nombreux cherchant à se sortir de l'impasse prohibitionniste, notamment outre-Atlantique. Le gouvernement de messieurs Macron et Philippe aurait tout intérêt à accompagner ceux de nos voisins européens déjà fortement engagés dans cette voie, à l'occasion d'un grand débat national d'assises ou d'états généraux autour de la politique des drogues réunissant tous les acteurs juristes, économistes, sanitaires et bien sûr les véritables experts que sont les usagers du cannabis et des drogues également aussi. Voilà, un petit peu donc pour ce communiqué de presse qui fait bien de souligner ce qui n'a pas été vu ou qu'on a voulu oublier en tout cas au niveau médiatique. Allez, on se retrouve juste après un nouveau petit passage musical, à tout de suite.
Sur la drogue, guerre totale, parce que nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus de cannabis.
Voilà, c'était Percubaba avec le morceau Jamaican. Alors, pour terminer, eh bien, on va s'intéresser un petit peu maintenant à ce qui pourrait se passer à Porto Rico. Porto Rico qui est à tort parfois surnommé le 51e État américain, sauf que ce n'est pas le cas, c'est une colonie en fait américaine. Voilà, les États-Unis sont le colonisateur de Porto Rico qui tiennent sous une coupe de fer depuis pas mal d'années. Au moins 50 ans. Donc voilà, pourquoi Porto Rico ? Ben parce que Porto Rico pourrait devenir également un lieu où on légalise le cannabis à usage médical. Ce qui motive le gouverneur de Porto Rico, c'est d'abord des questions économiques, en fait. La légalisation, pour des raisons thérapeutiques, pourrait créer 50 000 emplois et générer 50 millions de dollars de recettes par mois. Ce qui effectivement pourrait intéresser les caisses de l'île en fait. Porto Rico qui est écrasé par 70 milliards de dollars de dettes, peut-on lire dans cet article du Monde. Science et Vie à venir s'intéresse également à la situation de Porto Rico. On nous explique que voilà, l'île est en faillite et que ça pourrait être une bonne idée. Un des acteurs de cette possible légalisation pour des raisons thérapeutiques, monsieur Rossello, a demandé à ce que Porto Rico soit déclaré en situation de faillite. C'était en mai dernier. Il dit comme ça, nous avons travaillé afin de créer un cadre légal et efficace pour que les patients et les secteurs du cannabis à usage médical puissent exister, en fait, hein. Alors, pas mal de débats houleux à l'Assemblée portoricaine pour prendre ses décisions. Du coup, bon, il n'y aura que le thérapeutique hein, qui sera légal. Apparemment, l'aspect récréatif, pour l'instant, est mis de côté et on ne prévoit pas à Porto Rico de légaliser pour des raisons récréatives. Mais bon, on sait que ça peut changer prochainement. Voilà, on voit ce qui s'est passé dans d'autres états américains qui ont d'abord commencé par le thérapeutique et qui petit à petit après sont venus au récréatif hein, je pense à la Californie qui avait légalisé pour le thérapeutique dès 96 me semble-t-il. Voilà, donc pour l'instant quoi, c'est pas à l'ordre du jour à Porto Rico. Ce qu'on peut lire également, c'est bah, toujours pour des raisons économiques, hein, d'après le gouverneur, donc 10% des impôts ainsi levés pourront financer le centre de traumatologie de l'hôpital public de Porto Rico, qui est menacé par des coupes budgétaires drastiques, prévues pour assainir les finances de l'île de 3,5 millions d'habitants. D'autre part, la moitié des fonds récoltés par les amendes imposées notamment aux vendeurs non autorisés sera destinée à l'Université publique de Porto Rico, qui là aussi risque de voir son budget réduit de près de moitié d'ici 2021. Voilà, donc Porto Rico qui pourrait prochainement devenir une autre île où on légalise pour des raisons thérapeutiques d'abord. Voilà. Ensuite, un article du Journal de Montréal qui s'intitule « Le Nevada déclare l'état d'urgence du cannabis ». Donc une semaine après avoir légalisé le cannabis, apprend-on dans cet article du Journal de Montréal, eh bien le gouvernement du Nevada a émis vendredi, donc quelques temps déjà, une déclaration d'urgence concernant la substance, signalant que ses dispensaires étaient déjà à court de stock. Voilà. Déclaration qui permettrait au législateur, au pluriel, hein, d'adopter une réglementation d'urgence pour pallier le manque d'herbe dans de courts délais. Concrètement, cette législation mènerait à l'octroi d'un permis de distribution, ce qui faciliterait le transport de marchandises des stations de production et d'emballage jusqu'au point de vente. Et il faut qu'ils s'organisent, hein, ils sont allés peut-être trop vite, je sais pas, ils n'avaient pas prévu la ruée dans les dispensaires ou les cannabistros du Nevada. Parce qu'à ce jour, hein, faut savoir qu'aucun de ces permis n'a encore été distribué par les instances gouvernementales en raison de la perpétuation du litige juridique entre les magasins d'alcool du Nevada et l'État. Voilà. Ils voudraient entre autres avoir les droits de distribution exclusifs sur le cannabis. Mais, voilà, à moins que notre problème relié aux licences de distribution soit réglé rapidement, l'incapacité de livrer le produit au magasin de taille mènera à des pertes d'emplois, paralysant cette industrie naissante. Voilà ce qu'a dit le gouverneur Brian Sandoval dans un communiqué. C'est vrai que ça nous fait un peu rire, hein, vu d'ici. Donc plusieurs experts analystes craignent que le Nevada vive des pénuries de marijuana une fois que la drogue sera légale au pays. Selon des notes de recherche publiées par la firme Canaccord à la fin 2016, il pourrait plutôt s'agir de problèmes de production que de distribution. Le Nevada a légalisé le cannabis le 1er juillet dernier, 8 mois après que 54,5% des électeurs aient voté en faveur d'un changement de la loi. Alors, c'était au mois de novembre pour les élections présidentielles. Les 47 dispensaires de l'État ont généré des ventes de plus de 3 millions de dollars dans les deux premiers jours. Dans les deux premiers jours. Voilà. Et donc très vite après, finalement, ils se sont retrouvés à court de marchandises, ne pouvant plus vendre aux amateurs. Voilà. C'est incroyable, mais bon, c'est comme ça. Donc on souhaite bonne chance aux producteurs du Nevada ou des États avoisinants. Et on souhaite bon courage, bonne chance à ceux qui tiennent des petites officines vendant du cannabis. On leur souhaite de pouvoir retrouver leur stock, en fait, de pouvoir continuer leurs activités. Voilà. Avant de continuer, je vous parlais d'une petite actu cirque pour vous rappeler que, pour vous expliquer, hein, parce qu'on voulait, je crois qu'on l'a encore pas dit, que le cirque Lyon tiendra un stand au festival. J'ai mangé le nom. Mince. Qui se tient dans le budget à Arandas, Gullisound. Voilà, j'ai retrouvé leur nom, nos amis de Gullisound qui organisent la quatrième ou la cinquième édition du Gullisound Festival à Arandas dans le budget à partir du vendredi soir. Ça, c'est vendredi et samedi 21-22 juillet, donc. Et donc, voilà, le Cirque Lyon tiendra un stand à partir de vendredi en fin d'après-midi. Jusqu'à environ 2-3 heures du matin dans la nuit. Voilà, donc on vous attend nombreuses et nombreux. Si vous souhaitez participer à ce festival reggae Dub Sound System qui est absolument génial, qui se déroule dans un cadre naturel magnifique entre les bois, des petites prairies, voilà, c'est absolument superbe, un cadre magnifique et un bon air à respirer. Parce qu'on est vraiment complètement en dehors de la ville, on est à peu près à 800 mètres d'altitude. Voilà, on y participe quasiment tous les ans et on apprécie vraiment ce festival. Et donc voilà, si ça vous intéresse, il y a des préventes, je crois, à la FNAC, sinon la page Facebook de Gullisound. Vous pouvez retrouver les informations, le plan d'accès. Parce qu'Arandas, c'est pas forcément à côté de Lyon, c'est à 80 km à peu près. Et c'est, y a pas 36 routes hein, qui vont à Arandas. Voilà, donc le cirque sera à Arandas pour le festival Gullisound à partir de samedi en fin d'après-midi. Pour terminer, on va s'intéresser à un article publié dans le blog sur le site blogcannabis.com intitulé « Des intervenants du Cannabis Liberation Day à Amsterdam nous partagent leurs avis sur la situation du cannabis en Europe ». Et donc, c'était quoi le Cannabis Liberation Day ? C'était le 11 juin dernier à Amsterdam. Où était donc organisée la 9e journée de cette journée de libération du cannabis. Il y avait des milliers d'amateurs de cannabis et de gens curieux qui étaient rassemblés sous un soleil glorieux dans le magnifique Flevo Park. Voilà. Les gens n'étaient pas harcelés ou intimidés par les autorités à l'occasion de cette journée de libération qui était assez paisible. Voilà. Donc l'article nous demande pourquoi l'événement se nomme Cannabis Liberation Day. Eh ben le cannabis jouit déjà de la liberté aux Pays-Bas, en tout cas d'une grande tolérance, mais aussi en Espagne, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie. Et la liste continue. Alors quel est le problème ? Démonstration avec les intervenants de cette fameuse journée. Donc les choses ne sont pas aussi progressives, nous dit-on, et notamment d'Eric Bergman, qui est le coordinateur du Cannabis Liberation Day, qui nous dit que les gens en Hollande pensent pouvoir cultiver légalement 5 plantes chez eux, et ce n'est pas vrai. Donc voilà, réponse à la question qu'on se posait lundi dernier, où je vous disais qu'il me semblait avoir lu que le cannabis avait finalement été légalisé. Mais non, c'est toujours pas le cas, hein, c'est encore en discussion. Là, en tout cas, quand on écoute Derek Bergman, on sait que légalement, c'est toujours pas possible, hein, qu'il y ait toujours cette tolérance, c'est une zone grise, hein, mais que c'est encore pas fait. Mais il nous dit plus loin, les autorités néerlandaises arrêtent les personnes qui perdent leur maison, et plus encore, toujours en 2017. Au cours des années 70-80, les Pays-Bas ont été une lumière brillante dans leur approche pragmatique du cannabis et d'autres drogues. Pendant ce temps, aux États-Unis, la guerre contre la drogue était en plein essor. Aujourd'hui, nous voyons l'inverse. Le problème est que le grand public ne le voit pas. S'exprimant sur un panneau de l'attente Université Cannabis qui a accueilli une conférence lors de cet événement, Sean Carney, directeur du développement commercial IMA de Tilray, l'un des principaux acteurs de l'industrie juridique internationale du cannabis, dit « Les Européens tolèrent tellement le cannabis qu'ils ne font rien pour faire avancer la loi, en fait. Dans la plus grande partie de l'Europe, si vous voulez du bon cannabis, vous pouvez l'obtenir sans problème », dit-il. Je suis assez surpris de cette déclaration assez péremptoire, mais bon. En ce qui concerne l'aspect thérapeutique, les patients n'ont pas accès au cannabis médical, hein. On nous dit comme ça que le cannabis dans quelques pays n'est que juridique, mais qu'il n'est pas encore pratique en termes d'accessibilité. Alors, exemple, en République tchèque, par exemple, le cannabis médical a été légal pendant 4 ans, mais il n'est toujours pas disponible pour les patients à cause de la paperasserie et des politiciens. Voilà. Donc, quand on lit ça, on voit qu'en République tchèque, visiblement, c'est pas forcément plus simple qu'en France, tout simplement. Et même lorsqu'il est disponible, il se présente habituellement sous la forme d'un spray comme le coûteux Sativex. Voilà. Tellement coûteux qu'en France, la commission, la commission des affaires économiques, hein, de la sécurité sociale, voilà, je vais y arriver, n'arrive pas à se mettre d'accord avec Almiral, hein, qui est le fabricant et le distributeur en Europe. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix de vente. Voilà, donc toujours pas de Sativex en France non plus. Et on nous parle également du bédrocane. Le bédrocane qui produit, comme vous le savez, donc, des fleurs de cannabis pour les malades. Mais c'est un cannabis qui a été nuked, peut-on lire. Donc, c'est-à-dire qu'il a subi un rayonnement pour le rendre le plus sain possible et pour pouvoir affirmer qu'il est une véritable variété médicinale. Alors, James Burton, qui est un vétéran du Vietnam et qui a commencé la première culture à grande échelle de cannabis médical pour approvisionner le gouvernement néerlandais, trouve que c'est une très mauvaise idée que d'avoir soumis le cannabis à des rayonnements. Vous ouvrez un bidon, dit-il, de cannabis médical bédrocane et il n'y a pas d'odeur. Le rayonnement gamma a enlevé tous les terpènes présent dans ce cannabis thérapeutique. Et donc, on y perd, selon lui. Et c'est vrai, hein, les terpènes sont utiles pour soulager les patients, notamment. Donc, c'est quand même important qu'il y ait des terpènes dans le cannabis qu'on donne aux malades. Là, il n'y en a plus, vu qu'il a été rayonné, qu'il a été passé sous les rayons gamma, mais il n'y a plus de terpènes. Voilà. On apprend également qu'en Europe, une série de monopoles sont en cours de construction sur le même modèle en fait que le bédrocane. Donc c'est dévastateur pour la qualité et la sélection disponible sur un marché entièrement légal. Il y a également le point de vue de Michael Nocht, qui est un médecin allemand de cannabis médical, journaliste et célébrité du cannabis, qui souligne hein, les Allemands paient 23 euros par gramme pour le cannabis bédrocane. Les pharmacies facturent 8 euros seulement pour broyer ou même vérifier le produit, ce qui implique d'ouvrir les bouchons à l'intérieur et de dire que c'est bon. Les gens poursuivent avec succès leur compagnie d'assurance pour couvrir ces coûts. Les entreprises normales ont besoin de concurrence. Le marché européen du cannabis développe une culture des monopoles, hein, c'est-à-dire le bédrocane en Hollande, puis après l'armée en Italie, le Sativex au Royaume-Uni. Et on comprend que ces activistes et ces acteurs hein, de la légalisation du thérapeutique ou probablement du récréatif, finalement s'insurgent contre ces monopoles qui sont en train de se mettre en place et qui, il est vrai, ne sont pas forcément, vont pas forcément dans l'intérêt des malades et des patients. Ça, c'est sûr. Alors voilà un peu ce qu'on peut lire dans cet article. Sinon, un peu plus loin, on peut lire encore Rick Simpson qui souligne le fait que le gouvernement n'avait pas le droit de rendre le cannabis illégal et ils n'ont pas le droit d'établir le règlement lorsqu'il est légal. Il est temps que nous tenions debout et que nous réagissions et qu'on explique en fait aux grandes pharmacies, aux grands labos qui ne veulent pas nous guérir que quand même elle doit faire un effort si on veut qu'on redevienne, qu'on soit vraiment leur client, quoi. Et il dit comme ça, la seule chose addictive au sujet du cannabis, c'est de l'augmenter. Une fois que vous commencez à grandir, vous ne voulez pas vous arrêter. Pendant ce temps, sur la scène principale, il y avait aussi des concerts et de la musique qui étaient diffusés. Voilà. Alors, les traductions sont pas top, donc on a un peu du mal à comprendre ce qui se dit véritablement dans cet article. C'est un peu dommage. Un peu plus loin, on peut lire les propos de Derek Bergman, hein, toujours, qui dit que voilà, qui reprend un peu ce qu'il disait au début, que les Européens ne sont pas assez en colère pour se rendre dans les rues ou harceler leurs politiciens, comme l'ont fait les Américains. Donc il y a un paradoxe dans cette situation. Ceux qui apprécient le cannabis pensent que les choses sont bien et acceptent finalement une situation instable, ou en tout cas pas claire, hein, comme en Hollande. Même s'ils sont confrontés à un produit dont la qualité est pas correspond pas forcément aux attentes des utilisateurs et notamment des malades. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire dans cet article. Sinon, pour terminer, Derek Bergman toujours nous dit que 2018 va être une grande année pour la journée de libération du cannabis et qu'il y aura 10 fois plus de que ce sera 10 fois plus grand que ce qui a été organisé cette année en 2017. Voilà. Donc vous voyez comme quoi, en Hollande, il y a quand même toujours des gens qui se battent pour que le cannabis finisse par être légalisé. Hein. Beaucoup de gens pensent que c'est le cas comme ça, c'est comme ça en Hollande que le cannabis est légal. Non, pas du tout. Et là, on voit que parmi les canactivistes, il y en a qui regrettent en fait que les choses soient pas encore allées assez loin. Et ce qu'on peut les comprendre, hein, parce que c'est pas légal, c'est toujours une zone grise. Et qui proteste également contre ces qualités de cannabis thérapeutique dont on a supprimé tous les terpènes en les faisant passer sous des rayons, et qui regrette également qu'on puisse pas trouver de sativex dans les pharmacies, alors que dans beaucoup de pays, théoriquement et légalement, on devrait pouvoir s'en procurer. Et c'est d'ailleurs la même situation en France. Voilà. Pour terminer, rapidement, même si le chasseur de son n'est pas là, peut-être ce soir il ne sera pas là, cet article de Slate.fr qui attribue la palme en termes de consommation d'alcool et au volume d'alcool consommé aux Européens. Le pays où on boirait le plus d'alcool en Europe, c'est en Lituanie, avec une moyenne de 3,2 verres par jour et de 18,2 litres d'alcool consommés par an et par personne. Principalement de la vodka et de la bière. L'alcoolisme serait d'ailleurs un mal qui ronge ce petit pays balte et contre lequel d'ailleurs très récemment le gouvernement a décidé d'agir il est prévu qu'en janvier d'ailleurs, en janvier 2018, il soit voté la loi la plus restrictive d'Europe en matière de consommation d'alcool. Voilà, alors il y a une étude lituanienne hein, qui insiste et qui dit que l'alcool, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, est la cause de beaucoup de cancers, notamment de cancers colorectaux, de l'œsophage, du foie, du pancréas ou de l'estomac. Ces cancers qui tuent environ 3 millions de personnes par an en Europe. Hein, en Europe. Voilà. Donc, l'Union européenne souffre d'ailleurs de la plus haute proportion de maladies et de morts prématurées liées à la boisson. En 2014, l'OMS affirmait qu'une mort sur 4 était dû à un problème gastro-intestinal et qui pouvait être attribué à l'alcool. Voilà. Donc l'Europe, gros consommateur mondial d'alcool, et la Lituanie, premier pays européen sur la plus haute marche du podium. On n'a pas les stats de tous les pays européens dans ce court article de Slate.fr. Voilà. Alors aussi, je vous ai donné le chiffre lituanien, mais je vous ai pas donné la moyenne européenne. On peut dire quand même que dans aucun des 28 pays de l'Union européenne, aucun des 28 pays de l'Union européenne ne consomme en moyenne moins d'un verre par jour et par personne. Avec 11,2 litres d'alcool pur par an, les Européens font la course en tête devant le continent américain, 8,3 litres par an, l'Afrique 6 litres par an, et loin derrière, l'Asie du Sud-Est 3 litres et demi, et le Proche-Orient 0,7 litres. Voilà. L'étude montre également qu'un Européen sur cinq boit beaucoup, soit plus de 4 verres par jour, au moins une fois par semaine. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'alcool. Donc, avant de nous quitter, je vous rappelle que le Cirque Lion sera présent à Arandas au festival Gully Sound à partir de samedi prochain, donc samedi 22 juillet, dans l'après-midi. On arrivera certainement autour de 16-17h, 17h30. Et nous tiendrons un stand jusqu'à environ 2-3 heures du matin. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus aujourd'hui, 17 juillet 2017. Avant de nous quitter, je vous rappelle les coordonnées du Cirque Lion, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais. Donc Cirque Lion, BP 93 043 69 605, Villeurbanne, CEDEX. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse suivante, cirque-lion@no-log.org. Vous pouvez visiter notre page Facebook, la page Cirque Lion sur Facebook. Pardon, et notre site internet www.cirque-lion.fr et notre numéro de téléphone 06 11 53 10 07. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus, sans doute le dernier avant une petite coupure estivale et notre retour au mois de septembre. Voilà, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.